Nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marjorie Brassard, qui est psychologue de métier, mais spécialisée dans l'éducation créative ou positive, comme on dit, qui propose des ateliers, mais ça, on a développé lors de l'instant bien-être du mois dernier. Aujourd'hui, on va parler du thème qui est le suivant, être à l'écoute de son enfant. Alors, comment on pourrait définir, entre guillemets, ce thème? C'est quoi être à l'écoute?
Être à l'écoute, pour moi, effectivement, fait partie pleinement de la parentalité positive. C'est vraiment prendre en charge son enfant avec tout son amour, mais pas seulement, puisque l'enfant peut aussi avoir besoin d'une écoute plus précise de ses besoins, par exemple, de ses émotions, et c'est là où c'est très compliqué. Très très compliqué, puisque nous-mêmes n'avons pas forcément reçu ça dans notre propre éducation. Donc c'est quelque chose qui clairement s'apprend, quoi. C'est pas inné.
Du coup, par rapport à ses besoins, par rapport à ses émotions, comment on fait pour les écouter? Comment on fait pour entendre notre enfant? On n'est pas toujours attentif dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, on n'a pas forcément le temps. Mais est-ce que vous pouvez donner des pistes?
Effectivement, c'est le quotidien. Le quotidien qui prend souvent le dessus sur nous, sur notre relation avec l'enfant. Et ça veut dire des fois faire des temps de pause. Vous disiez vous-même, on n'est pas très attentif à nos enfants, ce qui est le cas. Nos soucis, notre travail fait que c'est parfois compliqué. Mais du coup, grâce à des petites techniques qu'on peut avoir, qu'effectivement je présente lors des ateliers que je propose aux parents, c'est des techniques qui permettent à l'enfant de se sentir compris. C'est-à-dire que ça ne va pas être répondre à l'enfant, on fait sa vaisselle, parce que on est speed, il est 18h, il y a l'heure du bain, il faut préparer le repas. Ça va être vraiment, ok, là il est en train de me parler, il est en train de me parler de quelque chose de l'école, là il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire on lâche son torchon, on se met à disposition de l'enfant. Et puis, l'écoute des émotions, l'écoute de ses besoins, mais l'écoute des émotions, c'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Aller creuser un petit peu, valider ses ressentis, chercher d'abord ce qu'il a ressenti dans ses difficultés au niveau de l'école, aller creuser, pousser la réflexion un peu plus loin. Après, il y a des exemples très précis, tu t'es senti triste quand ton copain, il t'a poussé? Tu t'es senti en colère? Ça permet aussi de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et là, l'enfant, quand on tape juste, c'est là où il faut beaucoup d'entraînement, en fait. Je suis en train de me dire, c'est pour taper juste. Mais il se sent vraiment compris et il se dit, waouh, maman, elle est là, quoi.
Justement, dans ce cas précis, quand il y a eu une dispute entre copains ou copines, comment on fait d'habitude, avec nos vieux réflexes? Est-ce qu'on a tendance à dire, tu sais, ça arrive entre copains, copines, un jour on se dispute et puis le lendemain on se réconcilie. Est-ce que ça suffit, ça, pour être à l'écoute des émotions de notre enfant ou pas?
Alors ça, pour moi, ce n'est pas de l'écoute. On montre un intérêt à notre enfant puisqu'on s'adresse à lui, mais clairement, ce n'est pas de l'écoute des émotions, c'est de l'explication. Oui, c'est arrivé, on va pas en faire un drame, demain tu lui reparleras, Mais du coup, lui, il reste avec son ressenti de « moi ça m'a fait mal, quoi ». Clairement, ça fait pas partie de l'écoute.
Et par rapport à ses besoins physiologiques, comment on fait justement pour y répondre?
Alors ça, c'est un atelier très long. En général, quand je le fais avec les parents, c'est un des ateliers qui dure assez longtemps, puisque les besoins physiologiques, c'est vaste. On parle plus ou moins clairement de tout ce qui est alimentation, sommeil, pour les plus petits, l'apprentissage au niveau de la continence. Mais des besoins, il y en a bien plus que ça. Il n'y a pas que les besoins physiologiques, les besoins affectifs, le besoin de bouger, le besoin d'explorer, d'apprendre. Et tous ces besoins-là, en fait, quand on se met à l'affût, un peu en mode parent-chercheur, on se rend compte que l'enfant, c'est un petit être humain qui ne veut qu'apprendre. Par rapport aux besoins physiologiques, purement, c'est un respect de son rythme. La société actuelle fait que on déjeune le matin à telle heure, on mange le midi à telle heure, on goûte on mange le soir et on va se coucher. Et oui, mais un petit, il a un estomac de la taille d'une pièce d'un euro et il a faim toute la journée, en fait. Donc, respecter son rythme, on peut pas le faire avec l'école, hein, j'en ai bien conscience. Mais déjà, le faire pendant les vacances, le faire pendant les week-ends, c'est déjà extraordinaire pour l'enfant. Et en fait, c'est dire à l'enfant, mais ok, t'as faim maintenant.
Oui, ça contrarie notre rythme de tous les jours. Il faut savoir dire, bah tant pis, on mange une heure avant ou on mange une heure après.
Je vois que là, au niveau de cette réorganisation par rapport aux besoins des physiologiques, pardon, c'est là où la parentalité créative prend tout son sens. Parce que ça veut dire continuer notre vie, hein, on ne se met pas entre parenthèses, tout n'est pas tourné exclusivement sur l'enfant et en fonction de lui. Et ça, on arrive malgré tout à le prendre en compte quand on se réorganise et qu'on arrive à prendre en compte ses besoins. C'est juste une organisation différente, une façon de voir les choses différente qui fait que la famille, elle roule quand même. Ça tourne et chacun y trouve son compte. Donc la créativité, je pense qu'en tant que parent, on la développe un maximum.
Par rapport à cette écoute des émotions, on n'est pas là avec lui toute la journée, puisque en général, il va à l'école. Est-ce que vous pensez qu'à l'école, on est à l'écoute des émotions des enfants ?
Alors à l'école, de manière générale, j'ai envie de dire non. Après, heureusement, dans chaque école, il y a des chouettes personnes, hein, comme partout, qui peuvent être à l'écoute, mais malgré tout, le nombre d'enfants fait que ça leur est difficile. Je pense que c'est à nous, en tant que parents, le soir, d'être à l'écoute. Alors, il y a plein de sortes, hein, d'écoute. En vous en parlant, j'ai l'écoute des émotions, bien sûr, quand l'enfant vient vous parler. Voilà. Après, les enfants ne parlent pas tous au même âge. Mais du coup, quand il vient vous voir pour vous dire « Ah, il s'est passé ça à l'école aujourd'hui », c'est là qu'on peut vraiment se mettre à l'écoute, pouvoir chercher leur ressenti, de pouvoir essayer de comprendre la situation et de leur montrer un réel intérêt. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas en faisant autre chose à côté, quoi, en étant vraiment centré sur lui. Pour les enfants qui parlent et pour les enfants qui parlent pas, il y a aussi une autre forme d'écoute qui est génial. Moi, je la vois tous les jours avec ma fille. C'est vraiment le jeu. Être à l'écoute de leur jeu. Le jeu libre, quand ils sont en train de jouer avec leur Playmobil, quand ils ont envie de jouer à l'école, quand ils ont envie de jouer à la maîtresse ou à la maman. C'est là qu'en jouant, ils nous passent des messages merveilleux. Merveilleux pour nous parce que ça nous montre vraiment ce qu'ils vivent à l'école. Et ça nous permet du coup de reprendre les choses avec eux en étant à leur écoute à ce moment-là. Donc ça, c'est chouette.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Ils jouent au papa et à la maman. Qu'est-ce qu'ils font passer comme message, en fait? Comment on peut rebondir dans le jeu? C'est pas toujours évident, je pense, pour les parents.
Mais souvent, quand ils jouent au papa et à la maman, ils ont envie quand même de jouer avec leurs parents à ce jeu-là. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui sont le papa ou la maman et où le parent fait le rôle de l'enfant. Et là, on va voir que l'enfant va avoir des propos, des attitudes. Et quand le parent est à la place de l'enfant, il se dit « Waouh, c'est moi qui fais ça ». Et du coup, ça nous montre que ouais, c'est dur, quoi. Quand l'enfant qui joue le rôle du parent peut punir, on se rend compte, en fait, au travers de nos enfants, de notre comportement, et ça peut permettre des prises de conscience énormes quand ça nous concerne. Quand ça concerne l'école, ça permet une prise de conscience de ce qu'ils vivent à l'école. Et là, je pense qu'une fois que le jeu est terminé, on peut revenir dessus. Ça peut être aussi, oh ben voilà ma chérie, je me rends compte que maman elle a fait ça avec toi la dernière fois et t'as dû te sentir un peu triste quand j'ai fait ça avec toi la dernière fois. Donc déjà, ça permet de rebondir sur son émotion. Et puis aussi, c'est possible quand on s'en sent capable et qu'on est prêt à le faire. De lui promettre de plus le faire.
Sur ce, on va faire une pause musicale et on revient juste après.
The dream never stops, but I see the end before I wake up. dream never wins, no. So I pray for yesterday, and I haven't slept a wink since. I never know what I want, what I need. So I think it's best you stay away from me, 'cause I hate the way you tease me. I am not lonely, I'm alright. But you sure don't make it easy to show my hand and say goodnight. It's me who takes the blame if I sing a whoa. Will I try again? No. I'd receive my fateful end. How did I let this thing happen? I never know what I want, what I need. So I think it's best you stay away from me, 'cause I hate the way you tease me. I am not lonely, I'm alright. But you sure don't make it easy to show my hand and say goodnight.
Bien de retour après cette pause musicale, on a parlé des besoins de l'enfant, des besoins physiologiques, de l'écoute de ses émotions. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est la sécurité affective. Qu'est-ce que c'est ? Comment on en arrive là ?
Alors, la sécurité affective se joue dès la naissance de l'enfant, j'ai envie de dire. L'écoute des émotions, l'écoute des besoins physiologiques, autres, besoins affectifs aussi, bien sûr, ça s'écoute dès la naissance. La sécurité affective, effectivement, c'est une conséquence, c'est quelque chose où l'enfant va se sentir sécure à l'intérieur de lui. On parle de la sécurité, on va pas traverser quand il y a une voiture qui passe. Mais là, c'est vraiment la sécurité interne, c'est ce qui va lui permettre d'avoir confiance en lui, d'avoir une estime de lui importante, et ça, c'est nécessaire à la fois pour l'enfant, mais pour les adultes de demain. Ça peut faire un adulte qui sera épanoui, qui pourra trouver le travail qui lui plaît, un adulte qui saura dire non, se positionner aussi face à ce qu'on lui demande. Ça, c'est important. La période du non à 2 ans, c'est une période qui, pour les parents, est juste terrible. Et en même temps, j'ai envie de dire, plus il se positionne à cette période-là, et mieux c'est.
Par rapport à son futur, c'est ça ? Parce que, bien sûr, les enfants sont des adultes en devenir. Cette période-là, elle est cruciale, la période du non ? Parce que j'ai du mal à intégrer ça.
Oui, elle est importante. Heureusement, tous les enfants la font. Et en fait, c'est comment on les accompagne dans ce non. L'enfant dira beaucoup plus de non face à un parent qui utilise le non en permanence. Hein. Il va bien sûr imiter le parent. Donc, si on l'utilise à moindre mesure, il l'utilisera à moindre mesure. Après, c'est là la question hein, de la pose de limite, de comment on fait, du pourquoi, de tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est un autre sujet hein, que j'aborde aussi dans un de mes ateliers. Et tout ça, ça se joue aussi dans la sécurité affective.
C'est tellement vaste, en fait, cette sécurité affective. Comment vous faites-vous pour arriver à ce que votre enfant ait confiance en lui ?
Oula, alors ça c'est la question du siècle, j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses. La sécurité affective, ça passe par les câlins, ça passe par l'affect déjà des parents, ça passe par la relation de confiance entre l'enfant et le parent, ça passe par la cohérence éducative des parents, ça passe par le jeu, voilà, jouer avec ses enfants. Comment on joue avec ses enfants ? Il y a des parents qui sont pas habitués, on n'a jamais joué avec eux petits, comment on fait aujourd'hui ? Moi aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre aux parents, c'est qu'on fait avec nos enfants ce qu'on a reçu de nos parents. Au travers de tous les ateliers que je propose, ça c'est dans le cadre vraiment pratico-pratique, atelier, voilà, la parentalité. Mais aussi, moi, mon positionnement en tant que psychologue, c'est vraiment travailler sur ce qu'on a reçu pour en prendre conscience. Et ensuite, réussir à modifier ce qu'on va donner. Parce que c'est ce qu'on va donner qui va générer cette sécurité affective. C'est tout ça. Là, comme ça, en une émission, voilà, c'est tellement vaste. Et puis, je pourrais vous en parler pendant des heures, je crois. Tellement, c'est un sujet qui me tient à cœur, je pense, oui.
Mais quand on est une famille où il y a plusieurs enfants, en général, les enfants jouent entre eux. Et quand on se retrouve parents, par exemple, qu'on n'a qu'un seul enfant, mais l'enfant est toujours en demande de jeu, quoi, avec son parent. Et quand on n'a pas l'habitude, des fois, ça peut être « j'ai pas envie » ou « tu joues dans ta chambre, tu joues avec tes poupées, tu joues aussi ». Non, il faut arriver à se dire « moi, quand j'étais petite, j'avais un frère et une sœur jouer avec, mais mon enfant a besoin de quelqu'un pour jouer, donc je dois le faire ».
Alors, moi, je dirais pas tout à fait « je dois », parce que « je dois le faire », ça veut dire qu'on est obligé, quoi. Ça veut dire « Ah, j'ai pas envie, bon allez, je vais me forcer parce que on a dit à la radio qu'il fallait !» Non, non, non. Votre enfant, il le ressentira si vous vous forcez. Ça risque de se terminer plutôt en crise, en fait. Parce que vous n'allez pas avoir envie, parce que lui, il va vouloir vous forcer, il va y avoir un rapport de force. Il n'y aura rien de positif, je pense, là-dedans. Par contre, si on reprend du début du jeu, c'est-à-dire qu'on peut aussi amener l'enfant à apprendre au fur et à mesure à jouer seul. Mais bien sûr, ça ne se fait pas en un jour. C'est parce qu'on va prendre du plaisir aussi à jouer avec lui, à faire des choses avec lui, que lui, son réservoir affectif, il va se remplir. Et en fait, une fois que le réservoir affectif est rempli, l'enfant parvient tout à fait à jouer seul. Mais s'il est vide, là, il va vous solliciter tout le temps. Et tant que vous n'aurez pas répondu, il vous sollicitera. Mais il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Le réservoir affectif, il se vide très très vite, mais il se remplit vite aussi. Donc des fois, il ne faut pas beaucoup de temps pour le remplir, mais il faut le faire, j'ai envie de dire, régulièrement.
Prendre le temps et se dire, aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon enfant, ou non, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Du coup, j'essaie de lui proposer autre chose, peut-être.
C'est vrai que c'est pas tous les jours évident. Ce que j'ai envie de dire, moi, souvent, c'est quand on rentre de l'école, là, ils sont vides, hein, les enfants, si je peux me permettre de dire les choses comme ça. Mais le réservoir, là, le réservoir d'amour, le réservoir affectif est complètement vide. Et souvent, on se rend compte que leur accorder, quand on rentre, 10 minutes, un quart d'heure, maximum, quoi, mais ça les remplit. Et après, du coup, ils sont capables d'aller jouer, de vaquer à leurs occupations pendant qu'on fait le repas, et quand on leur demande quelque chose, ils vont être beaucoup plus enclins, en fait, à coopérer, à collaborer avec nous, parce qu'ils se sentiront apaisés, quoi.
Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, on a parlé de tout ça, être à l'écoute. Ce thème-là est assez vaste et complexe. Arriver à apporter une sécurité affective à son enfant, c'est un travail de longue haleine. Ça se travaille jusqu'à l'âge adulte. Vous êtes d'accord ?
Oui, ça se travaille pendant longtemps. C'est des domaines qui sont vastes, mais primordiaux en même temps. Donc, vous disiez que l'écoute, effectivement, c'est vaste. Ça m'a fait penser que c'est le premier atelier que je propose aux parents, parce que du coup, tout ce qui est au travers de l'écoute, on le retrouve dans tous les autres ateliers. C'est-à-dire que l'atelier sur la joie en famille, par exemple, ou la pose de limites, comment on accompagne les émotions de l'enfant, là, les besoins physiologiques, enfin, à chaque fois, en définitive, ben, il y aura un moment donné où on va se dire « Ah ouais, là, il y a peut-être un peu d'écoute. »
Merci beaucoup, Marjorie, d'être venue aujourd'hui pour parler de ce thème-là. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans tous vos ateliers et vos activités en parentalité créative.
Merci beaucoup. Et si je peux être un soutien pour les parents, mais c'est plus un plaisir pour moi qu'une activité, en fait.